Tribu, Julien Magnolet.
La Suisse possède 4 langues nationales, des cantons d'origine catholique et protestante, et sa force économique fait d'elle aussi une terre d'accueil pour de nombreuses personnes étrangères. Et aujourd'hui, environ 40% des personnes de plus de 15 ans vivant en Suisse sont issues de la migration, dont un tiers possède la nationalité helvétique. Ce sont des chiffres officiels de l'OFS de 2021. Alors la Suisse est-elle la New York de l'Europe? Quelles sont les conséquences, les défis et les opportunités de cette multiculturalité? Bonjour Étienne Piguet.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géographie des mobilités à l'Université de Neuchâtel et vice-président de la Commission fédérale des migrations. Alors Étienne Piguet, on le voit dans la rue, dans les écoles, au travail, la Suisse connaît une population d'une diversité assez folle. Vous confirmez, vous, le prof spécialiste des migrations?
Complètement. Moi, c'est ce qui me fascine depuis plusieurs décennies. La Suisse, en comparaison internationale, est clairement dans le top 10 des pays d'immigration.
Top 10,
sans hésiter. Alors, il ne faut pas prendre les cas très particuliers de micro-pays, mais disons, en gros, on est au-dessus de tous nos voisins européens, on est au-dessus des États-Unis, pas de la ville de New York, mais des États-Unis, et puis on est dans la ligue où on trouve des pays aussi divers que Singapour, la Jordanie, ou bien encore des pays comme le Canada.
Mmh. Alors, vous citez la Jordanie, vous citez Singapour, vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a plusieurs types dans les pays qui accueillent beaucoup d'étrangers. Il y a différents types. Expliquez-nous.
Il y a un peu trois grandes logiques. Si on regarde le monde entier et qu'on prend les pays qui reçoivent le plus d'immigration, il y a la logique pétrolière, un peu étonnamment, hein, c'est les pays du Golfe. Alors là, on est à 60%, 70% de personnes qui sont nées hors du pays. Ça s'explique simplement par la manne pétrolière qui fait qu'on a besoin de main-d'œuvre à tous les niveaux, mais passablement dans le service domestique, etc. Il y a des pays improbables d'ailleurs dans ce club. Il y a le Gabon, par exemple, qui est aussi un grand pays pétrolier, alors pas au même titre que l'Arabie Saoudite, mais qui a aussi une immigration forte. Ça, c'est un peu le premier groupe. Et puis le deuxième groupe, c'est moins joyeux, c'est les pays qui accueillent beaucoup de réfugiés. Et la Suisse n'en fait pas partie, en tout cas pas dans le club des plus accueillants, parce que ces pays, ce sont la Jordanie, le Liban, la Turquie, dans une moindre mesure, des pays où véritablement on a des proportions de personnes qui sont issues de conflits qui sont très très élevées. Ça, c'est un peu le deuxième groupe. Et puis le troisième groupe, c'est celui de la Suisse. C'est le groupe des pays qui ont une prospérité économique remarquable et qui ont, de fait de cette prospérité, de fait de la durée de cette prospérité au fil des décennies, eu besoin de main-d'œuvre dans toutes sortes de domaines. Puis alors vient s'ajouter, dans le cas de la Suisse, effectivement quand même, l'accueil des réfugiés qui a pris une certaine ampleur et qui aujourd'hui est une composante substantielle, mais de loin pas majoritaire, de l'immigration vers la Suisse.
On va revenir sur l'aspect économique, mais peut-être un mot sur l'histoire aussi, parce que la Suisse, elle a une histoire, puis elle a une composition. Déjà, elle a cette composition assez folle, avec ses 4 langues nationales, ses 2 religions d'origine. Aussi la tradition d'accueil, hein, déjà, il y a les Huguenots, on en parle souvent, mais il y a eu au 19e siècle pas mal de révolutionnaires qui sont venus ici. Il y a aussi une tradition de multiculturalité ou de mixité assez forte en Suisse.
Oui, la Suisse a été considérée, entre autres au 19e siècle, comme le refuge de l'Europe. Et par rapport aux révolutions de 1830, de 1848, qui ont touché toute une série de pays d'Europe, eh bien, souvent les libéraux se sont réfugiés en Suisse. Alors, il y a aussi eu des refuges plus aristocratiques, lors de la Révolution française, par exemple, pour remonter encore un cran plus loin, ça a été l'aristocratie qui, en partie, s'est réfugiée dans les cantons qui étaient le plus ancien régime. Et il y a eu comme ça toute une dynamique qui a effectivement donné naissance progressivement, à la fin du 19e siècle surtout, mais c'est resté très vif, à cette idée d'une Suisse terre d'asile, d'une Suisse humanitaire, qui évidemment a pris rang de mythe, mais est aussi basée sur une réalité. Au 19e siècle, on avait véritablement, dans les débats, et ça on l'a oublié complètement, dans les débats au Parlement, dans l'Assemblée fédérale de la deuxième moitié du 19e siècle, eh bien, la question des réfugiés était une des questions les plus traitées, les plus controversées, tout comme aujourd'hui.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Suisse, on n'est pas loin d'avoir, pour 40-50% de la population, des origines étrangères. On y arrive gentiment ?
Oh, si on prend un indicateur un petit peu large, on y arrive. Si on prend simplement le fait d'avoir un grand-parent qui est issu de la migration, on est au-dessus de 50%, c'est clair. Mmh. Et encore une fois, ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve pas très souvent autour du monde.
La question économique, c'est ça qui fait que depuis l'après-deuxième guerre mondiale, ça a encore augmenté, cette mixité, cette diversité de la population, des gens qui viennent de l'étranger et qui s'installent en Suisse?
C'est le grand facteur. À l'issue de la guerre, la Suisse se retrouve quand même avec une situation très favorable. Il n'y a pas eu de destruction en Suisse, ou presque. Il y a des commandes qui affluent avec le plan Marshall qui irrigue l'Europe. La Suisse se met à développer ses industries, les industries classiques de la Suisse, elles se développent à ce moment-là. Et pour cela, mais aussi pour l'agriculture, aussi pour le tourisme qui va démarrer, on a besoin de main-d'œuvre, donc on cherche la main-d'œuvre. On n'en trouve pas d'abord, parce que la France, l'Allemagne, l'Autriche ont eu des pertes de guerre, n'ont pas du tout envie que les personnes qui restent quittent le pays. Par contre, en Italie, il y a eu un peu moins de pertes. On a en plus le spectre du communisme qui menace. Et donc, on fait un accord en 1948 avec l'Italie, un accord de recrutement. Ça, c'est le début. Mmh. C'est le début d'un processus qui va quasiment plus s'arrêter jusqu'à aujourd'hui, avec une forte immigration, quelques petits ralentissements. Mais depuis 1948, la Suisse est un grand pays d'immigration. Deuxième phase, puisque la première phase, c'était le 19e siècle.
C'est vrai que 1848, on a envie de le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées en 1848, aussi en Suisse et en Europe d'ailleurs aussi. Juste cette vague d'immigration italienne, elle venait plutôt du sud de l'Italie ou du nord de l'Italie?
Alors, d'abord du nord, ensuite du sud. La Suisse a un petit peu recruté là où les gens étaient prêts à venir. Puis quand la situation économique, avec le petit miracle italien des années 60, s'est améliorée, on a été chercher plus loin, on a été chercher au sud. Mais on a aussi été chercher, avec des accords de recrutement là aussi, en Espagne, au Portugal, ce qui était la Yougoslavie, et puis en Turquie. Il y a eu une diversification progressive des provenances. Et cette diversification, elle s'est poursuivie par la suite, avec entre autres les arrivées de réfugiés.
Sur ces questions-là, donc chaque fois, si on prend les Italiens, mais ensuite les Espagnols et les Portugais, qui ont été des grosses cohortes dans ces années-là, c'est chaque fois lié à un accord, donc un accord dans le fond économique. On a besoin de bras ou de cerveaux, on signe un accord et les gens viennent.
On a beaucoup administré, beaucoup contrôlé la migration durant ces décennies qui suivent 1948. On avait des plafonds chaque année. Enfin, on a mis en place des plafonds assez rapidement. Et puis, on avait des secteurs vers lesquels on orientait les personnes. Et puis, on avait des conditions de séjour qui étaient, il faut le dire, quand même assez dures, voire même inhumaines. Vis-à-vis des saisonniers, on connaît l'histoire, mais c'était quand même des conditions où on ne pouvait pas amener sa famille, on pouvait rester qu'un certain nombre de mois par année. Et puis, ce n'est qu'après de nombreuses années qu'éventuellement on pouvait transformer le permis en un permis durable. Il y a eu véritablement là, il y a une politique de gestion de l'immigration très dure qui a pris fin en partie avec les accords bilatéraux avec l'Union européenne en 2000, puisqu'à ce moment-là, on peut vraiment parler d'une libre circulation pour ce qui concerne l'Europe, mais pas pour le reste du monde. Pour le reste du monde, on a toujours une politique qui est une politique de contrôle, une politique de maximum annuel pour l'immigration.
Mais cette libre circulation qui entre au début des années 2000, là aussi ça change beaucoup pour la Suisse. C'est depuis là qu'on a quand même une augmentation assez importante de la population étrangère chaque année en Suisse.
Là, on a vu vraiment les chiffres repartir à la hausse. Ils étaient déjà relativement élevés, mais là, on est passé en quelque sorte à une vitesse supérieure avec, effectivement, il faut quand même le dire, beaucoup plus d'immigration que ce qui avait été prévu. On a fait des modèles, on peut regarder les débats qui ont eu lieu lorsqu'on a voté sur les accords bilatéraux. On prévoyait beaucoup moins d'immigration que ce que l'on a eu finalement.
On prévoyait combien par année?
Alors, on prévoyait des soldes migratoires de l'ordre de 25-30 000, et puis on a eu des soldes migratoires de l'ordre de 60 voire 80 000 soldes migratoires. Donc la différence entre les arrivées et les départs, pas les arrivées seulement. Et là, c'est vrai qu'on a eu un peu une surprise qui a débouché entre autres sur 2014, où on a tout à coup voulu tirer le frein à main.
Donc votation.
Votation pour réintroduire des quotas. Et puis le Parlement a fait un tour de passe-passe assez spectaculaire, pour que finalement il ne se passe pas grand-chose. Donc on est resté dans un système de libre circulation. Ensuite, on est un peu redescendu des chiffres qu'on avait eus. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a toujours une forte immigration qui, encore une fois, s'explique principalement par la prospérité de la Suisse et la chance d'avoir une économie qui ne connaît pas de chômage et qui a besoin de main-d'œuvre.
Toute la question aussi des réfugiés qui se lient aussi, parce que les réfugiés vont aussi là où on les accueille, mais là aussi il y a du travail si possible. Il y a eu pas mal de vagues comme ça. On se rappelle de la vague des réfugiés tamouls par exemple. Il y a eu toute les guerres des Balkans. Et aujourd'hui, c'est des gens qu'on retrouve, si on prend les Balkans dans les équipes nationales de foot, etc. Donc il y a aussi des événements internationaux qui font que tout d'un coup il y a des gens qui arrivent et qui pour certains s'installent ici en Suisse.
On a pu montrer que les arrivées de demandeurs d'asile, qui deviennent ensuite quand même souvent des réfugiés et des résidents permanents, sont vraiment liées à des crises. Et une crise peut donner lieu à des arrivées nombreuses durant une certaine période. Vous avez parlé du Sri Lanka, vous avez parlé des Balkans. Ensuite, ça a pu être, durant certaines périodes, le Liban, par exemple. Et puis ensuite, quand la crise se résorbe, du fait, entre autres, des politiques qui sont restrictives, eh bien, on a beaucoup moins de personnes qui peuvent venir, qui peuvent demander l'asile. Mais effectivement, ensuite, ce qui est fascinant, c'est d'observer que ces personnes qui sont arrivées durant une certaine période prennent pied en Suisse, trouvent du travail, ont des enfants qui progressent dans la société suisse et puis qui se retrouvent progressivement, avec évidemment aussi des difficultés, des discriminations qu'il ne faut pas sous-estimer, mais se retrouvent dans des postes où on oublie même quel est leur parcours migratoire. Et finalement, on a beaucoup, beaucoup de gens en Suisse qui ont des parcours migratoires assez remarquables.
Nous parlons de cette Suisse, pays très multiculturel, très métissé. Avec vous, Étienne Piguet, on va évoquer un peu les défis que ça pose pour un pays comme la Suisse, juste après Geneva.
Terre peuplée de cacaoyers, où tu peux croiser Heidi en train de gueuler, quatre montres au poignet, où les mentalités sont forgées par la neutralité, bref, laissons de côté les préjugés. Pas en apparence, mais chaque goût dans le lac Léman fait une différence, influencé par diverses ambiances, mille cosmopolites, tout fait un aveu, un trésor aussi précieux que la prunelle de nos yeux. Crois en la solidité, la solidarité, richesse et nationalité, l'opportunité de se mélanger. Ils sont de partout du monde, ces échanges bienveillants me donnent l'impression de voyager sur tous les continents, épicer nos habitudes, enrichir notre quotidien, servira de levain aux générations de demain. Tu viens d'arriver, viens te faire découvrir le quartier, peu importe ce que tu as, ce qu'importe, c'est qui tu es.
Geneva, crossroads of me.
Questa terra di banche, di orologi, di macchine e barche abbandonate sugli ormeggi. Non disperare, sappi che non siamo lontano. Veniamo da ogni dove, siamo qui al lago Lemano. Che è solo un lago, è vero, ma è come un porto di mare. Non ci importa dove vieni, ci importa dove vuoi andare. In quale direzione, che cos'è che per te vale? Raccontacelo mercoledì davanti ad un boccale di birra, di spumante, di vino d'aranciata. Che non ci importa cosa bevi durante la serata, ci importa cosa sei e senza l'apparenza. Cos'è che ti interessa più, la forma o la sostanza? C'è una sostanza che prendiamo che dà una dipendenza pazzesca, un'energia che non possiamo più starne senza. Se prendi la nostra droga non potrai più farne a meno. Si chiama vita e noi l'amiamo a tempo pieno.
Geneva, crossroads of meetings, wake up just.
Benvenuto a questi pizzi. Se chiusa la tua mente, se vivi di pregiudizi, se pensi che ci sia qualcuno che abbia più valore di qualcun altro, giudichi la gente per colore, per sesso, religione, provenienza, educazione. Se ti tiene alla larga da ogni contaminazione culturale o ti spaventa l'inclinazione sessuale, ti chiama come gli pare senza far nulla di male.
Vivre ensemble en prônant le respect, une valeur essentielle pour pouvoir construire une ville de paix. Avoir une mentalité ouverte aux découvertes, l'évolution d'une gerbe, notre herbe n'en sera que plus verte. Être reconnaissant de notre condition de vie, une eau salubre sans limite, une richesse qu'on oublie trop vite. Le désir d'un partage authentique, d'un brassage ethnique, faisant-en l'éthique du peuple helvétique.
C'était Stefano Pollastri avec Jenny Daly et Joe Mess, des jeunes voix qui nous parlaient de cette ville multiculturelle. Nous parlons justement de la Suisse multiculturelle. C'est un terme que vous n'aimez pas forcément, ce terme-là, Étienne Piguet. Pourquoi ?
Oh, je l'aime pas s'il donne l'impression qu'on a chacun sa culture et puis qu'il s'agit de les mélanger un petit peu, mais que finalement on peut clairement les identifier les unes des autres. Je pense que il y a pas une culture, il y a pas des cultures, il y a une évolution constante de la société. Et puis quand on parle d'interculturel, j'ai trop l'impression que l'idée c'est que finalement chacun doit faire un effort, mais que finalement on se base sur des choses qui sont intangibles. Et c'est juste ça qui me gêne. Mmh. Je préfère diversité.
Diversité. Effectivement, c'est un mot qu'on utilise un peu davantage aujourd'hui. J'ai dit en introduction de cette émission, la Suisse est-elle la New York de l'Europe? Est-ce que c'est un peu ça? C'est comme une grande ville qui attire un peu des gens d'ailleurs?
Alors, il y a aussi des zones rurales qui sont des zones d'immigration, mais c'est vrai que si on prend la position géographique de la Suisse au centre de l'Europe, c'est quand même une des explications aussi pour cette immigration. On est un petit pays, on a beaucoup de voisins qui ont parfois des situations économiques qui sont comparables à celles des périphéries rurales hein, du 19e siècle à nouveau. Et puis là, on pourrait prendre l'immigration vers la Suisse comme une forme d'exode rural. Et puis ensuite, effectivement, ça développe cette économie extrêmement prospère, internationale de la Suisse, qui a quelque chose d'urbain. On a parlé de la Suisse comme d'une grande métropole. Donc là, il y a une analogie, oui. Mmh.
On l'a dit, des gens qui viennent d'un peu partout. Effectivement, d'un peu partout, il y a quasiment tous les pays qui sont représentés en Suisse ou bien ?
Je crois qu'on pourrait le dire. Ensuite, c'est clair qu'il y a des grandes différences. Disons, ce qu'on a observé ces dernières décennies, c'est effectivement une diversification progressive. Et cette diversification, elle vient, pour l'échelle de l'Europe, bien sûr, des accords de libre circulation, mais surtout, quand même, de la voie de l'asile, de la voie de l'humanitaire au sens large. Donc, pas seulement les personnes qui reçoivent un statut de réfugié, mais des admissions provisoires de personnes qui ensuite se transforment dans des séjours durables, que ce soit par des mariages ou par des permis humanitaires. Donc c'est ça finalement la grande explication de la diversification des origines qu'on observe aujourd'hui, qui est évidemment visible dans la production culturelle de la Suisse aussi, par exemple, et dans toutes sortes de facettes de la Suisse d'aujourd'hui, mais qui pose aussi des défis importants.
Mmh. Juste, l'asile, ça pèse combien dans le pourcentage d'étrangers en Suisse? On arrive à chiffrer ça?
Aujourd'hui, je dirais qu'on peut estimer que 20% de l'immigration est attribuable à l'asile, c'est-à-dire beaucoup moins que ce que disent certains quand ils dénoncent les arrivées incontrôlées liées à l'asile. Mais quand même, en termes démographiques, c'est substantiel, d'autant plus que quand même, on sait que, par exemple, les personnes qui viennent des États-Unis ou du Canada, les expatriés des grandes multinationales, ben, bougent beaucoup, repartent beaucoup. Les personnes qui viennent dans le cadre de l'asile, ben, elles viennent souvent, malheureusement, de territoires qui sont frappés par la violence, qui se remettent pas facilement de cette violence, et les retours sont relativement peu nombreux. Donc, du point de vue de l'effet sur la population, eh bien, on a effectivement, de ce point de vue-là, un impact de l'arrivée de réfugiés qui est important.
Aujourd'hui, c'est quoi? Toujours l'Afghanistan, l'Érythrée, des pays comme ça? Alors, si on enlève l'Ukraine, parce que c'est peut-être un cas tout récent, mais c'est...
C'est l'Afghanistan, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Érythrée. Et puis, il y a eu quelques arrivées de pays plus distants ces dernières années, en fonction de l'ouverture de certains canaux d'arrivée. Mais principalement, ce sont les origines. Et puis, de manière un petit peu stable, avec des effectifs relativement modestes, mais qui s'accumulent au fil des années, on a quand même une bonne partie du continent africain, ce qui diversifie aussi la population passablement.
Étienne Piguet, vous l'avez dit, c'est il y a des défis derrière cette migration, parfois des problèmes dénoncés, lesquels vous voyez?
Alors, je peux partir peut-être d'un constat qui est venu à mon esprit en écoutant la chanson de tout à l'heure. Il y a cette vision finalement de l'arrivée de migration comme un enrichissement, et moi j'y crois très fortement. Je crois que c'est une énergie formidable pour un pays d'avoir ces arrivées. En même temps, c'est pas le Paléo Festival. Hein. Un des indices de cela, c'est que si on regarde les quartiers de Genève, pour prendre Genève, qui ont voté contre la libre circulation, mais qui sont aussi plus hostiles quand il y a des scrutins sur l'asile, etc., ben ce sont les quartiers populaires, ce sont les quartiers pauvres. Et ça, c'est vraiment un des défis de la migration. C'est que l'arrivée d'immigrants, dans la plupart des cas, si quelqu'un peut en souffrir, entre guillemets, eh bien ce sont plutôt les couches populaires que les bourgeois. Les bourgeois, finalement, ou les possesseurs de capital, peuvent embaucher de la main-d'œuvre à moins cher avec l'immigration, c'est pas le cas des ouvriers qui sont plutôt concurrencés. Alors c'est un peu caricatural de dire ça, mais je pense qu'il faut le répéter, parce que c'est un discours qu'on tient très peu, que la gauche tient très peu en Suisse, qui pointe quand même sur le fait que pour pouvoir tirer parti des aspects dominants bénéfique de la migration, il faut des politiques sociales pour amortir le choc que ça peut être pour certaines populations. Et ça, c'est un discours que tiennent, par exemple, des gauches européennes dont on parle peu, comme la gauche danoise, par exemple, qui débouche alors effectivement sur des politiques que j'approuve pas forcément au Danemark, mais qui sont très différentes de celles qu'on voit en Suisse, ou tout au moins qui est mise en avant par les milieux de la gauche en Suisse. Et c'est là qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut travailler très concrètement sur les quartiers défavorisés, sur les quartiers pour lesquels les arrivées, par exemple, de populations elles-mêmes défavorisées peuvent être un handicap supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Qu'est-ce qui se passe dans l'accès aux soins? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accès au logement? Et y a certaines villes déjà qui ont un petit peu mis en avant cela de manière très positive. La Chaux-de-Fonds récemment a quand même relevé le fait que c'est une ville qui reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigration. Et c'est très bien. Ça donne à la Chaux-de-Fonds une force extraordinaire du point de vue culturel. On le sent quand on y va. Mais en même temps, si vous êtes en charge des écoles à la Chaux-de-Fonds, y a du boulot.
Vous dites que la classe pauvre est la plus impactée potentiellement, mais la classe moyenne, elle l'est aussi. Si on prend la question du logement, par exemple, du renchérissement du logement, des gens qui doivent aller chercher parfois à la campagne des logements moins chers, là aussi, c'est en partie dû à la migration, non?
Il y a des défis pour le logement aussi, qui touchent effectivement une frange plus large de la population, mais disons, là, il y a un petit peu aussi des effets de retard dans la construction en Suisse, il y a toute une série de facteurs explicatifs de la crise du logement. Je ne crois pas qu'on soit dans une situation véritable. Les personnes issues de la migration prennent des logements des Suisses, pour dire cela comme ça, d'autant plus que c'est aussi eux qui les construisent, les logements. Mais je pense quand même qu'au niveau économique, au niveau des salaires, au niveau de la concurrence sur les salaires, là, on a vraiment un impact sur les classes les plus défavorisées, qui sont d'ailleurs elles-mêmes souvent formées par des immigrants plus anciens. Ce n'est pas une dichotomie entre les Suisses d'un côté et les étrangers de l'autre. Ce sont des classes sociales qui sont parfois mises en concurrence. Et c'est là vraiment qu'il faut travailler.
On a un parti, c'est l'UDC en Suisse, qui s'est beaucoup investi sur ces questions-là. Il y en a d'autres aussi à gauche qui ont attaqué l'UDC. Est-ce que vous pensez que, de manière générale, la politique s'est pas assez intéressée à cette question de la migration? On a dit non, mais il se passe quelque chose, mais ne faisons rien. Quelle est votre position par rapport à ça?
On a beaucoup parlé, beaucoup légiféré sur la migration. Je crois qu'on a beaucoup fait une différence entre une immigration économique qu'on a essayé de laisser entrer le plus facilement possible, en tout cas à l'échelle de l'Europe, et puis une immigration d'asile qu'on a essayé de limiter au maximum. On a peu réfléchi, par contre, jusqu'à il y a peu, sur la transition entre cette immigration d'asile qui a pris de l'ampleur, et puis justement le marché du travail et le destin finalement des personnes qui arrivent en Suisse. S'il y a un domaine dans lequel il me semble qu'on doit agir, mais on le fait déjà depuis un certain nombre d'années, c'est ce passage-là. C'est-à-dire il faut vraiment donner la possibilité aux personnes qu'on accueille au titre de l'asile de passer dans la société dans son ensemble sans être maintenu dans une position d'assistance pendant des années. Et je pense que ça, c'est un défi, parce que si vous imaginez arriver d'Afghanistan à 14 ans et puis devoir prendre pied dans le système de formation de la Suisse, qui est un système qui est assez dur, qui est très exigeant, eh bien il faut clairement qu'on mette des moyens à disposition qui ont augmenté ces dernières années, mais qui, à mon avis, sont encore insuffisants. Et finalement, il faut accepter que une politique humanitaire, une politique d'asile telle qu'on la mène aujourd'hui, alors certains pensent qu'elle est insuffisamment ouverte, on pourrait être encore plus ouvert dans certains domaines, mais on a quand même substantiellement un nombre important de personnes qui arrivent. Une politique humanitaire doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se donner les moyens de permettre aux personnes qu'on accueille de faire leur chemin et, en fin de compte, de contribuer à la société qui les accueille.
Étienne Piguet, on a parlé des défis, des problèmes qu'il peut y avoir face à cette migration. Elle est assez positive. Et qu'est-ce que ça apporte, dans le fond, cette grande mixité, selon vous?
Alors, ce qu'on met toujours en avant, c'est l'aspect économique et l'aspect démographique. Ça, je crois que c'est une évidence. Il y a un rajeunissement, il y a, du point de vue économique, des simulations qui ont montré à quel point on a gagné en termes de prospérité grâce à l'immigration. Peut-être que ce qu'on voit pas encore tout à fait, c'est des aspects culturels, non pas tellement dans une vision un petit peu étriquée, consistant à dire, la diversité augmente, donc on va avoir des groupes qui vont faire de la musique africaine, et puis des groupes qui vont faire de la musique ukrainienne dans les festivals de musique. Ça, c'est une chose. Mais il y a véritablement une sorte de co-construction de la société de demain, hein, qui se fait par les jeunes générations à travers l'invention de nouveaux modes d'expression, de nouvelles manières de vivre la ville et les espaces, qui est souvent assez peu pris en compte, par exemple, par les grands instruments culturels actuels. Mmh. On a d'ailleurs développé... Commission fédérale des migrations, un projet Nouveau-Nous, qu'on a appelé Nouveau-Nous, qui consiste à essayer de promouvoir précisément les initiatives culturelles qui sont pas simplement revivifier la culture d'origine, mais qui sont véritablement, de manière collective, créer des nouvelles manières de penser la société en Suisse aujourd'hui.
Étienne Piguet, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus âgés, qui vivent peut-être à la campagne, puis qui parfois arrivent en ville, puis disent « mais tout a changé, la population n'est plus la même », parfois ça les inquiète. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors, je réponds d'abord que je comprends tout à fait ce sentiment. Je le dis, par exemple, quand j'interviens à l'université du troisième âge, comme on l'appelle encore à Neuchâtel, le changement a été extraordinairement rapide. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient. C'est-à-dire que il y a peu de cas historique où on a de manière continue comme ça une transformation par la migration qui se fait en parallèle à d'autres transformations qui ont rien à voir avec la migration, mais qui pour des personnes qui ont vécu un quartier, par exemple, c'est pas seulement à la campagne, hein, c'est pas seulement les personnes qui viennent en ville. Il y a des quartiers en ville de Lausanne qui ont subi des bouleversements extrêmement importants par toute une série d'évolutions économiques qui ne sont pas liées à la migration, fermeture de la poste, fermeture de toute une série de petits magasins, il reste une Migros, mais c'est tout ce qui reste, et puis en même temps, une transformation profonde de la population liée à la migration. Alors évidemment, pour les personnes qui ont habité dans ce quartier pendant 30 ans, ben, c'est un changement qui peut parfois les rendre hostiles à la migration.
Et qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, je dis surtout aux autorités, faites attention, mettez à disposition de ces quartiers des moyens suffisants, assez vite.
Merci beaucoup, en tout cas, Étienne Piguet, d'être venu nous éclairer ce matin. Vous êtes professeur de géographie des mobilités à l'Université de Neuchâtel et donc vice-président de la Commission fédérale des migrations. Bonne suite de journée à vous.
Merci.
Et merci à Jorel Ayer qui était à la technique avec nous ce matin. Demain, nous parlerons de l'avenir de la démocratie, rien que ça, elle qui est très souvent attaquée ces dernières années. Mais tout de suite, c'est les décodeurs qui reçoivent cette semaine Béatrice Béguin, qui est la présidente de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, Le Chemin. Donc, toutes les personnes qui aiment bien randonner. Quant à moi, je vous souhaite une très belle suite de journée.
Tribu, Julien Magnolet.